les jardinières.
Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour parler de jardin, pour s'y atteler, en parler ensemble et répondre jusqu'à 8h à toutes vos questions concernant votre pelouse, vos alentours, vos extérieurs, mais également les plantes qui ornent votre chez vous et d'être en votre compagnie. Sarah, bonjour.
Bonjour Sandra, bonjour à tous et c'est un plaisir partagé.
Un temps radieux, des températures chaudes pour la saison, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le jardin? Pour répondre à cette question, Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel, est avec nous. Philippe, bonjour. Bienvenue.
Raymond.
Voilà, j'avais pas ouvert le micro. On recommence. Ah, alors, Philippe, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Merci.
Excusez-moi. Sarah, concernant les questions, on fait une petite piqûre de rappel.
Oui, vous pouvez, comme chaque samedi jusqu'à 7h50, les poser en direct en téléphonant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Les plus timides pourront choisir d'envoyer un SMS en tapant le mot jardin, un espace, suivi de votre question et envoyer le tout au 939. Il existe également le formulaire internet que vous trouverez sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Belle matinée, bienvenue chez les jardinières.
Les jardinières.
Alors pour démarrer cette émission, Philippe, j'ai une petite question avant qu'on attende toutes celles des auditeurs. Une question qui concerne le temps qu'il fait. Hein, l'été est arrivé avant l'heure. Est-ce que c'est bon ou mauvais ces conditions ensoleillées pour le jardin ou est-ce que c'est trop tôt?
Oh, spécialement, c'est pas franchement mauvais. On avait un petit peu un mois de janvier qui nous a déjà fait avancer un peu la saison. Puis ensuite, on a eu un méchant coup de frein au mois de février, début mars. Ensuite, ben voilà, ça rattrape. Et puis voilà, c'est comme ça. J'entends, c'est la nature. De toute façon, on peut rien faire de particulier pour changer ça. Donc, il faut faire avec.
Alors peut-être, par contre, qu'on pourra faire quelque chose pour René. René, qui nous a envoyé une question cette semaine. Il en a marre de ses alentours qui lui demandent trop de travail. Il aimerait savoir ce qu'il peut planter pour orner son allée sans devoir s'en occuper. Le don est donné.
Comme ça, juste à froid, sans beaucoup de réflexion, je dirais que une allée ou une haie, je sais pas si peut-être qu'il pense à une haie. Moi, je penserais plutôt à une haie vive. Une haie vive, c'est une haie avec des arbustes à fleurs qui fleurissent à différentes périodes de l'année, et puis qui demande pas forcément de passer le taille haie pour que ce soit bien tiré au cordeau. Donc la haie vive, elle va aussi favoriser la faune, donc les insectes, les oiseaux. Voilà, comme ça, à froid, sans trop savoir ce qu'ils souhaitent exactement.
On a Pierre-Alain de Fontaine-Melon qui nous a écrit « Pouvez-vous me dire quel est le moyen d'éradiquer les vers fils de fer dans le jardin ? Cela fait bien 4 à 5 ans que j'ai ce phénomène. Ils s'étendent spécialement aux pommes de terre ainsi qu'aux oignons et échalotes. J'ai essayé bien des remèdes tels que des vieilles pommes de terre allumettes avec soufre, mais rien n'y fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe ?»
Donc le vers fil de fer, il est... Bon, c'est pas un vers. C'est une larve, la larve du taupin, qui est un petit scarabée. Et le vers fil de fer, il est équipé pour être dans des sols qui sont durs. Voilà, donc il va se trouver dans des sols qui sont plutôt durs. Et je ne vais pas lui faire plaisir, mais peut travailler. Donc si on a un sol qui est un peu travaillé, eh bien le vers fil de fer, il ne va pas se plaire beaucoup dans ce milieu. Maintenant, j'allais lui suggérer les pommes de terre et compagnie, mais c'est vrai, c'est des pièges. Pour les vers fils de fer, ensuite ils vont dans la pomme de terre et on supprime les pommes de terre. Moi, je lui conseille simplement de travailler un peu mieux son sol. Maintenant, je ne vais pas lui conseiller d'arroser avec des insecticides, évidemment, puisque moi j'ai un petit peu une philosophie bio, donc voilà. Mais j'ai pas de remède vraiment violent, par exemple.
Et on a Nathalie de Courandelin, une habituée Nathalie, qu'on salue d'ailleurs, qui aimerait savoir si elle plante des framboisiers d'écouis dans des bacs, est-ce qu'il y a un risque que les racines n'aient pas assez de place pour se développer? Est-ce qu'il est préférable de les planter à même le sol?
Oui. Ça c'est sûr, donc en pleine terre ce sera beaucoup mieux. Déjà elle va beaucoup moins s'ennuyer à arroser tout l'été. Mmh. Ensuite, ça dépend de la grandeur des bacs, évidemment. Si elle pense à des bacs du type bac à géranium, c'est évidemment trop petit, donc ça, c'est pas possible.
Je pense qu'elle pensait à ces gros bacs pour les alentours, comme c'est un peu tendance maintenant, ces gros bacs à roulettes souvent qu'on voit autour des maisons.
Ouais, alors ça, c'est évidemment, dès le moment où on passe à des bacs pour adultes, c'est environ 40 cm de largeur, 40 cm de profond au moins, et puis après, ça dépend du nombre de plantes qu'elle va y mettre dedans, c'est possible. Mais comme il n'y a pas de sous-sol, eh bien évidemment, elle va devoir suivre l'arrosage et c'est ça qui sera un peu fastidieux.
Et puis, est-ce que, comme elle le dit, les framboisiers et les kiwis peuvent être dans le même bac ?
Non, moi je dirais non, parce que le kiwi, c'est quand même une plante qui va... Enfin, je ne sais pas à quel kiwi elle pense. Moi, je pense aux kiwis à tout petits fruits, genre taille d'olive ou de date, qui sont hermaphrodites et puis qui sont vraiment super sympas dans les jardins. Ça prend la place d'un rosier grimpant, donc on ne va pas imaginer mettre des framboisiers dans le même bac. Moi, je pense que ce serait une mauvaise idée.
Okay. On a deux... merci pour elle. Pardon, Sarah.
Pardon, c'est moi. On a Denis de Cornol qui nous a écrit « J'ai bien laissé pousser mon gazon avant de le tondre la première fois. J'ai beaucoup de trèfles dans celui-ci. Est-ce qu'il faut l'éradiquer et comment ? Et est-ce qu'on peut laisser ces trèfles dans le gazon sans qu'il y ait un risque pour celui-ci ? »
Or le trèfle, c'est un peu embêtant parce qu'il est vivace et puis il va s'étendre. Donc en solution bio, moi je lui conseillerais de les sortir avec un espèce de couteau, essayer d'aller ramasser les racines avec. Simplement le tondre, ça va pas suffire. Et puis le trèfle, c'est très ennuyeux parce qu'en fait il est très bas, il va souvent fleurir. Et puis si on se promène à pieds nus dans un gazon qui a du trèfle, eh bien on a des risques de marcher sur des abeilles. Puis là, elles vont se défendre. Donc c'est souvent un petit peu l'ennui du trèfle dans les gazons. Puis ensuite, c'est clair, il va s'étendre, il va prendre la place du gazon.
Merci beaucoup Philippe, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous pouvez poser toutes vos questions à Philippe, c'est très simple, il suffit de nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire comme Denis et c'est par formulaire internet que ça se passe, vous trouvez un formulaire sur notre site, il y a aussi le SMS, vous tapez le mot jardin, un espace, votre question et vous envoyez le tout au 939.
Les jardinières qui ce matin sont en compagnie de Philippe Détra, horticulteur de Châtel. Il répond à toutes vos questions. Et des questions, eh bien, on en a justement au téléphone. C'est Yvonne qu'on a en ligne. Yvonne, bonjour.
Bonjour, monsieur. C'est Yvonne Jalland de Courfèvre.
Bonjour.
Voici mes questions, monsieur. J'ai deux questions. J'ai dans mon jardin, j'ai un jardin verger puis un jardin potager, des molaines ou bouillon blanc qui pousse, elles ne sont pas vilaines quand elles sont grandes et puis même petites. C'est donc, vous connaissez la molaine ?
Oui, c'est une plante médicinale.
Voilà,
que les herboristes utilisent. C'est vrai que c'est assez joli.
Vous êtes là ?
Oui. Moi je suis là, vous ne m'entendez pas ?
Bon, alors. Vous êtes là ?
Oui, moi je suis là.
Alors, je voudrais savoir si ça a l'impact. Là où elles viennent, parce que j'en ai qui viennent dans le jardin potager.
Alors, c'est un tout petit peu envahissant, c'est vrai. Si vous les laissez grainer, il y en aura un petit peu partout dans le jardin. Maintenant, c'est relativement facile à arracher. Donc, ce n'est pas un gros souci.
Oui, donc elles n'ont pas d'impact sur les autres plantes.
Elles vont prendre la place des autres.
Elles prennent de la place, c'est sûr.
Surtout qu'elles ont des grosses feuilles bien larges.
Oui.
Il faut peut-être en garder quelques-unes dans un endroit où ça vous convient. Et puis, arracher les autres. Et éviter de les laisser grainer aussi.
Oui, c'est bon. Alors, je serai comme ça. Et maintenant, encore une autre question. J'ai entendu dire que les coquilles d'œufs pouvaient être intéressantes dans le jardin. Mais comment faire ? Comment est-ce qu'on les emploie ?
Alors, j'ai pas beaucoup de connaissances sur les coquilles d'œufs, si ce n'est que c'est assez pratique d'en mettre autour des salades parce que les limaces, elles vont être ennuyées pour aller attaquer les salades. Mais sinon, je ne sais pas ce que ça amène particulièrement dans un jardin, mais je pense que ça, vous devriez pouvoir trouver facilement sur internet.
Oui, je n'ai pas Internet, monsieur.
Ah, désolé. Alors, je vais essayer de chercher. Voilà.
On va tenter une recherche pour la semaine prochaine, Yvonne, d'accord?
Là, ça va bien, oui, d'accord.
Extra. Ah, ouais. Super.
Alors, contre les limaces, en tout cas, ça va bien. Merci beaucoup.
Merci alors, à vous, Yvonne. Hein. À la semaine prochaine, une très belle journée. Oui. Merci beaucoup. Philippe, vous vouliez rebondir sur les fameux kiwis et framboisiers dans les bacs de Nathalie de Courandelin.
Oui, c'était juste pour rappeler à tout le monde que lorsque vous plantez une plante ou lorsque vous semez des graines de légumes ou de différentes choses, il faut toujours imaginer que ça va prendre une certaine place. Donc il faudrait s'imaginer la plante à l'état adulte, de façon à ne pas les planter trop près les unes des autres. Allô ?
Oui, allô, allô.
Décidément,
j'attendais, mais j'attendais une suite. J'attendais.
Okay. Il y avait un gros vide. Voilà.
On a Sylvie qui nous parle de ses orchidées. Elle a coupé ses orchidées, elles repoussent, mais sur le côté et plus en hauteur. Du coup, même avec un tuteur, c'est délicat. Elle a peur de les casser. Elle doit les tordre. Elle se demande s'il ne faudrait pas qu'elle change son pot et en prendre un plus grand.
Donc, ce qui l'inquiète, c'est les petites pousses qui poussent latéralement.
C'est ça.
Voilà. Donc, l'orchidée la plus traditionnelle qu'on trouve maintenant dans les surfaces de vente, c'est des Phalaenopsis. Le Phalaenopsis, une fois qu'il a terminé sa floraison, il va repousser. Il lui faudra un certain temps de repos, de se remettre en route. Et moi, je conseille enfin, il y a des petits bourgeons qui sont sur la hampe florale, et je conseille de n'en laisser que deux depuis la base, et c'est ces deux petits bourgeons qui vont repousser. Si vous ne faites pas ça, eh bien, comme il y a des bourgeons à peu près jusqu'en haut, ce sont les derniers qui vont se réveiller, alors effectivement, ça va donner des tiges un peu trop longues. Visuellement, pas terrible.
C'est pas forcément une question de peau, alors?
Non, ça n'a rien à voir avec le pot, non.
Comment on peut savoir si le pot est d'une mauvaise taille par rapport à l'orchidée ?
Eh bien, en général, lorsque les racines commencent à être un peu trop denses dans le pot, les orchidées sont des plantes épiphytes, donc en principe, elles devraient pousser sur des arbres où elles sont dans leur milieu naturel. C'est pas possible chez nous, évidemment, donc on les met dans des pots qui sont relativement transparents, parce que ces racines sont capables de faire aussi un petit peu de photosynthèse. En général, les extrémités des racines de Phalaenopsis sont un tout petit peu vertes, donc elles sont tout à fait capables de faire la photosynthèse.
Alors des fois, c'est le contraire. Les orchidées, elles poussent bien en hauteur, puis on a des espèces d'antennes qui sortent du pot, qui vont de manière latérale prendre de l'ampleur. C'est très moche. Est-ce que ça, on peut les couper ?
Pourquoi les couper ? Si ça fait des nouvelles tiges, c'est probablement que la plante va bien et puis qu'elle va ensuite fleurir. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est les diriger avec des tuteurs.
Ok, donc c'est pas bien de les couper.
Non, je trouve dommage.
Ça, c'est assez personnel, mais je trouve ça tellement mêlé. Ces petites antennes là qui sous les feuilles. Bon d'accord, j'éviterai de les couper alors.
Vous passerez au cactus, ça sera plus simple.
Et puis ça fera des airs cubains et mexicains. Volontiers, alors on va faire ça. On va vous retrouver d'ici un petit instant, Philippe. Juste avant, Sarah, on refait un petit rappel concernant les questions, à savoir comment faire pour qu'on puisse y répondre.
Pour nous poser vos questions de jardinage à Philippe, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et vous pouvez aussi nous poser vos questions par écrit. Il vous suffit d'envoyer un SMS. Vous tapez le mot « jardin » en début de message, un espace, puis votre question. Et vous envoyez le tout au 939. On lira votre question pour vous. Et également, si vous choisissez de nous écrire par formulaire que vous trouverez sur notre site.
Et dans un instant, on va retourner donc au jardin sous le soleil. On va en parler. Du soleil, et juste après ça, on se retrouve à tout à l'heure.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Des jardinières de retour en compagnie de Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel. Il est avec nous jusqu'à 8h afin de répondre à toutes vos questions concernant l'aménagement extérieur et intérieur de vos espaces verts. Et si vous venez d'allumer votre radio, bien sachez que vous êtes sur RJBRTN RFJ. Vous êtes chez les jardinières jusqu'à 8h. Bienvenue à vous. Et avant de rebondir sur les coquilles de d'Yvonne, puisque Philippe, pendant l'intervalle musical, vous avez pu vous renseigner, on va peut-être prendre prendre le formulaire qui vient de nous être envoyé, Sarah.
C'est Jean-Daniel de la Chaux-de-Fonds qui a un peu de terrain, 10 fois 10 mètres, qui était relativement plat avant l'hiver. Et maintenant, il n'y a pas de trou apparemment, mais il est plein de creux. Et je ne vois pas de... il ne voit pas de trou, mais c'est comme s'il y avait des vides en dessous. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ?
Aucune idée. Non. Franchement, alors je sais pas. Il y a peut-être des crevasses qui fassent attention. Il faut s'attacher, s'encorder. Non, je peux pas vous dire, j'en sais rien. J'ai aucune idée.
D'accord. Alors on peut revenir sur les œufs, les coquilles d'œufs.
Sur les œufs, ouais. J'aurais dû y penser tout de suite. D'ailleurs, c'est bourré de calcium dans la coquille d'œuf. Il y a aussi du potassium, il y a du phosphore, il y a du magnésium, il y a énormément de minéraux. Donc la coquille d'œuf, vous pouvez l'émietter et puis la mettre au compost. Ça sera un super, ça va améliorer le compost. Et comme il y a beaucoup de calcium dans la coquille d'œuf, on pourrait l'utiliser aussi pour mettre ça au fond des plantations de tomates. Lorsqu'on plante notre tomate, on mettrait de la coquille d'œuf autour des racines. Et ça éviterait, c'est censé éviter le cul noir de la tomate. Le cul noir c'est un truc pas très joli, quoi. C'est la tomate qui vient un petit peu noire à son extrémité. Et c'est un manque de calcium la plupart du temps. Donc avec les coquilles d'œufs, on pourrait régler ce problème.
Merci Philippe pour toutes ces informations. On va passer des coquilles d'œufs aux olives. J'ai reçu un olivier de Toscane. Impossible de savoir si mes olives seront vertes ou noires. Y a-t-il un moyen de savoir ? Et c'est Gisèle qui voudrait savoir si, en plus de ça, elle peut laisser son pot dehors à cette époque ou si elle doit le garder encore dedans un moment parce qu'elle pense surtout qu'il y aura au mois de mai les saints de glace.
Ok, alors elle habite où, Gisèle ? Alors, on va simplifier. Si c'est en plaine, comme par exemple à Neuchâtel ou au bord des lacs, moi j'en ai deux gros oliviers que je peux plus rentrer tellement ils sont lourds. Je les ai plantés et puis voilà, de temps en temps ils morflent un petit peu avec le gel. Donc c'est vrai que c'est pas une plante qui est censée tenir chez nous. Sinon il faudrait les rentrer dans des lieux plutôt frais et très lumineux. Donc en appartement, c'est pas franchement top parce que les branches vont s'allonger, elles vont s'étioler. Et puis ça va être difficile. Il faudrait aussi éviter de le sortir en plein soleil tout de suite.
D'accord.
Parce que les plantes sont un petit peu comme nous, elles vont attraper des coups de soleil et brûler.
Et puis quant à savoir si elles sont vertes ou noires, elle attend.
Alors il y a exactement, donc attendre. Mais juste pour dire, je me suis fait 1 kilo d'olives l'automne passé.
Mais non.
Ouais. Sur la plante qui avait passé l'hiver dehors, donc je me suis fait c'est des olives noires, je sais pas. Voilà. Et puis après faut les rincer longtemps. Ça D'accord. demande un peu de travail, mais elles sont sympas.
Ah oui, parce qu'on peut pas. Alors on peut pas tout d'un coup aller comme pour une pomme chercher son olive et puis la manger tac comme ça. Ça va pas être bon. Hein.
Non. Ben vous pouvez essayer, mais c'est affreux.
D'accord. Merci beaucoup.
On a Micheline Dulocle qui nous envoyait un SMS. Je vais planter des plants de basilic, menthe, persil, ciboulette. Et ayant du soleil que le matin, est-ce que je dois déplacer mon bac à fleurs pour les amener au soleil toute la journée ou la lumière matinale suffit ?
Alors, la lumière matinale pourrait suffire, il n'y a pas de problème, mais la plupart du temps, ces plantes demandent un maximum de lumière. Donc, elles seront mieux, ça c'est clair, exposées au sud. Ensuite, certaines plantes ont des besoins particuliers. Ben, par exemple, le persil, il ne va pas bien avec la ciboulette, parce que la ciboulette aime le chaud, le soleil. Le persil, il préfère un mi-ombre. Voilà. Le basilic, maintenant, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'exciter. Attendez le 15, le 20 mai pour le basilic. C'est une plante relativement fragile, très fragile même. Et puis moi, je préfère dire aux gens qui prennent du basilic que même si on le trouve en plein soleil dans le sud, il y a souvent des conditions climatiques, une humidité relative qui est différente que chez nous. Donc il n'aime ni la bise, ni le soleil, ni la pluie. Alors, trouver un petit coin sympa, ça c'est l'idéal pour le basilic.
Merci Philippe.
On a Pauline de Porrentruy qui aimerait savoir, elle a un petit talus autour de chez elle qui est plutôt ensoleillé, en général l'été, hein. Et elle voudrait savoir si elle peut planter de la vigne. Alors elle veut pas forcément, elle sait qu'il existe de la vigne décorative, elle n'envisage pas de faire de vin, mais elle voudrait savoir à quel moment la planter, comment s'en occuper, et puis si elle peut, si on trouve des vignes où on peut manger le raisin. Ceci dit, pas décoratif seulement.
Bon, alors je crois savoir qu'il y a quand même une ou deux petites vignes dans le Jura. Mm-hmm. Maintenant, pour Rentruy, c'est pas très haut, donc c'est quand même un petit peu plus frais que Neuchâtel, je pense. C'est jouable, à mon avis, ça devrait se faire maintenant. Donc on trouve dans les pépinières, on trouve dans des garden centres professionnels, mm-hmm. on va trouver des plants de vignes qui sont souvent greffés sur un plant américain et qui va éviter d'avoir des maladies. Donc on n'aura pas besoin de traiter comme le font les vignerons.
Et puis elle doit, si elle veut donc mettre sa vigne, c'est maintenant qu'elle doit la planter.
Ouais, c'est alors le plus vite possible, hein, parce que ça commence à bourgeonner maintenant.
D'accord, merci.
Nous avons reçu un téléphone, c'est André de Basse-Cour qui est avec nous. Bonjour André.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est André de Basse-Cour. J'aurais aimé vous demander monsieur, cette semaine j'ai fait mon gazon, j'ai scarifié, et puis maintenant avec le chaud qu'il fait, j'aurais aimé savoir si je dois arroser du fait que faudrait remettre du gazon et puis un peu d'engrais.
Est-ce okay, qu'on donc... peut... Oui, alors c'est très bien d'avoir scarifié à cette période, oui. Donc c'est vraiment le bon moment. Donc je rappelle ce que c'est que de scarifier un gazon. En fait, on va passer une machine qui va avoir des petites lames qui vont aérer le gazon et enlever les mousses et les petits chenilles qui sont là-dedans.
Oui.
Ensuite, effectivement, ça aura créé des espaces et vous pouvez faire un sursemis, donc ressemer du gazon. Sur votre surface et ensuite mettre un peu d'engrais pour gazon, tout à fait.
Ah, comme ça. Mais comme il fait sec, est-ce qu'il faut arroser?
Alors évidemment, il faudrait un peu d'eau.
Si on attend qu'il pleuve.
Alors, si vous pouvez arroser une fois, par exemple, mais évitez d'arroser trop souvent parce que les plantes sont comme nous, le gazon aussi. Donc, si ils sont habitués à recevoir tout le temps leur petite dose, ils font plus rien.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, arroser une bonne fois, ça va peut-être aider. Oui. Puis, arroser peut-être, pas trop souvent, mais bien.
Pas trop souvent. D'accord. Voilà,
de façon à ce que la plante, les graines, le gazon comprennent que l'eau, il faut la chercher en bas.
Ah d'accord, alors c'était ça mon problème. Je vous remercie monsieur.
Hein. Je vous en prie.
Merci.
Bonne journée André, au revoir, bon week-end. Merci,
au revoir madame.
Et oui, le festival des tondeuses à gazon a commencé, mais Maurice Dulandron, lui, de son côté, il a un problème avec un figuier. Alors que ces nouvelles figues poussent, il reste encore des anciennes de l'année passée qui sont toutes séchées, qui ne sont pas tombées. Mm-hmm. Doit-il laisser ce mélange vieux et nouveau sur son arbre ou est-ce que les vieilles vont tomber ou est-ce qu'il doit les enlever?
Ok. Donc, ces figues qui, dans le sud, auraient donné des figues. Mmh. Chez nous, il ne faut pas rêver, on n'est pas dans le sud. Si on a déjà une seule récolte, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ces vieilles figues, elles vont sécher et tomber. Il faudrait les enlever seulement si, par hasard, elles se mettent à pourrir. Ça évitera d'avoir de la pourriture sur la plante.
Ok, merci.
Service.
On a Sabine qui a des envies de roseaux. Elle aimerait, avant de les planter, savoir si cela est possible, sachant qu'elle habite à 1000 mètres d'altitude, si cela ne risque pas de subir des dégâts du gel, si cette plante passe l'hiver ou si elle devra combler ses envies en replantant chaque année ses roseaux.
À mon avis, ça risque bien de se produire comme ça, parce que après, faut savoir ce qu'on appelle roseau. Moi, je pense au roseau de Chine qui s'appelle Miscanthus. Je doute un petit peu que ça tienne à 1000 mètres. Voilà. Mais je vais faire une petite recherche pendant la prochaine pause musicale.
Merci beaucoup Philippe, vous êtes avec nous bien sûr jusqu'à 8h. Vous pouvez poser toutes vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 ou par SMS au 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis vous nous envoyez votre question. Il y a aussi le formulaire internet. Et ne vous inquiétez pas si on n'a pas pu répondre à vos questions. On les garde au chaud et on va essayer de trouver des réponses pour y répondre la semaine prochaine.
Dans les jardinières, le show n'est pas fini et non, il continue. Et pendant la pause musicale, nous avons eu un appel, Sarah.
C'est Anne de la Chaux-de-Fonds qui est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour Anne.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
J'ai deux questions à vous poser.
Allez-y.
Tout d'abord, j'ai une amaryllis que j'ai reçue au mois de décembre dans un gros bac en verre. Elle a fait deux belles fleurs et puis les feuilles ont fané. Puis maintenant, ça fait quelques jours, les feuilles repoussent. Est-ce que vous pensez que j'aurai de nouveau des fleurs ou pas?
Alors, normalement, l'amaryllis, il prépare sa fleur dans le bulbe après sa première floraison. Et puis, c'est tout à fait normal de laisser faner les feuilles. Il faudrait même lui donner de l'engrais à ce moment-là, jusqu'à ce que les feuilles deviennent jaunes, pour justement qu'il puisse préparer sa nouvelle fleur. Maintenant, moi, ça me semble être un petit peu tôt pour qu'il refasse des nouvelles feuilles maintenant. Donc, ça sera peut-être des feuilles, mais sans fleurs.
Ah bon, d'accord. Et puis j'ai reçu de ma maman, mais ça fait des années, une plante qui est dans le coin vers une fenêtre. Les branches sont comme des épines. Et puis ça fait toutes des petites fleurs roses. Est-ce que vous pourriez me dire, ça vient de Belgique, est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est comme plante?
Je doute que son origine soit la Belgique. Moi, je pense à une euphorbia.
Non, elle l'a reçue, je pense, mais je ne sais pas.
Ouais, c'est probablement une euphorbia mili, qu'on surnomme épine de Christ. Mais voilà, donc c'est de la même famille que l'étoile de Noël.
Oui, d'accord. Merci beaucoup.
Service.
Merci, Anne.
Bon week-end, Anne. Au revoir.
Bon week-end.
Alors, dans les questions, on a Sabine, je crois, Sarah.
Oui, on avait parlé de Sabine avec ses envies de roseau, il me semble.
Exact. Non, on en a déjà parlé de Sabine. Non, on n'en a pas parlé des envies de roseau de Sabine. Elle va être embêtée si on ne lui répond pas à Sabine avec ses roseaux.
Elle a des envies de roseau. Elle aimerait, avant de les planter, savoir si cela est possible, sachant qu'elle habite à 1000 mètres et si cela ne risque pas de subir les dégâts du gel si cette plante passe l'hiver ou si elle devra combler ses envies en replantant chaque année ses roseaux.
Alors c'est peut-être jouable parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, sur un site que j'aime bien visiter et qui dit pas trop de conneries. Le Miscanthus sinensis, comme son nom le suggère, ça vient d'Asie. Et puis on peut le trouver dans des zones entre 5 et 10. Alors juste comme ça, Neuchâtel, je dirais que c'est en zone 7, grosso modo. Chaux-de-Fonds peut-être en zone 5, voire 6. Donc ça pourrait être jouable de planter ça, mais il faut faire attention de ne pas les mettre dans un endroit où il y a trop d'eau qui stagne en hiver. Donc le froid et l'humidité fait mauvais ménage. Mais ça devrait être jouable.
Donc si elle les plante maintenant, puisqu'elle vient de construire, si elle plante maintenant, exact, comme elle nous met dans son message, enfin, on n'a pas de tout dévoilé, mais elle peut donc maintenant les planter et puis les laisser vaquer à leurs occupations, ces roseaux.
Voilà, puis après, tout dépendra de l'endroit où elle les met. Peut-être que la même altitude, il y a des endroits où ça tiendra jamais, puis il y a d'autres endroits où ça pourra très bien aller.
D'accord.
Ça dépend tout de l'endroit.
Une autre question, et je pense que ce sera la dernière, Philippe, c'est celle de Jean-Luc. Jean-Luc, non, c'est pas vrai, Jean-Luc, c'est le mari. Voilà, c'est le mari de Morgane. Il a planté des pommiers et des pruniers nains à 6 mètres de la maison. Et Morgane, elle se demande si elle va devoir passer l'automne à ramasser ses pommes et ses prunes carrément sur ses chaises de terrasse. Elle est d'avis, elle, que c'est trop près du cocon familial.
Moi, je ne veux pas semer le trouble.
Oui, alors je pense qu'il va falloir le réparer, là. le trouble.
Mais si c'est effectivement des fruitiers nains,
oui.
À mon avis, elle n'a pas de souci à se faire.
D'accord.
Voilà, donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais je sais que ça existe. Parfois en arbre colonne, donc ça fait juste une colonne avec quelques petites branches latérales et des très beaux fruits. Et puis il y a aussi des variétés de fruitiers qui existent en arbre nain. Donc on imagine un cerisier mais nain, on imagine un pommier mais nain. Mm-hmm. Après... être sûr que ce soit des nains.
Oui, puis bon, après, je pense que ce qu'on peut dire, pour vous qui êtes horticulteur, on peut dire quand même qu'elle peut faire confiance, si elle ne fait pas totalement confiance à son mari, qu'elle peut faire confiance quand même à l'horticulteur qui lui a proposé de mettre ses arbres nains.
Alors, si elle s'est approchée d'un professionnel, je pense que ça ne devrait pas poser de problème.
Mm-hmm. On enchaîne, Sarah ? On a le temps encore pour une petite ?
Allez, je viens d'emménager dans une maison et comme je suis novice en jardinage, que dois-je planter en cette saison pour être sûre d'avoir des résultats très prochainement? Et j'aimerais aussi mettre des légumes dans des bacs surélevés, est-ce un bon choix?
C'est un petit peu la mode, les bacs surélevés. Mmh. On se rapproche de cette mode de permaculture. Maintenant, on ne sait pas où habite cette dame. Donc, voilà, sur le littoral, on peut parfaitement commencer de planter des salades, des choux, des choses comme ça. Attendez avec les tomates. Et puis dans le haut, il va falloir attendre peut-être 10-15 jours de plus, c'est-à-dire vers les 20-25 mai pour éviter d'avoir des plantes qui gèlent. Enfin, parce que les risques de gel sont bien possibles. Hein. Ça va peut-être pas arriver du tout, mais c'est possible avec les saints de glace.
Et à part les plantations, quels autres travaux on peut faire en cette période?
Préparer le terrain, désherber.
Scarifier, c'est possible, c'est trop tôt?
Comme vient de le faire Madame Abascour, non?
Ouais, le mois d'avril, c'est parfait pour scarifier.
Ok.
Voilà. Scarifier le gazon.
Eh bien, tout est dit. Donc, messieurs, dames, à vos pioches, à vos binettes, à vos gants de jardin, à vos bottes en caoutchouc, quoi qu'il fait un peu chaud, peut-être mettez d'autres chaussures, hein. Ou bien, pour faire le jardin. C'était mon conseil du jour. La semaine prochaine, vous retrouvez Stéphanie, Philippe. Un immense merci d'avoir été parmi nous ce matin. Belle journée à vous tous sur RJBRTN RFJ. Une journée qui se poursuit dans un instant avec le journal de 8h et la matinale d'ici quelques minutes. Très bon week-end à vous tous. Bon week-end Philippe, bon week-end Sarah.
Bon week-end.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
7h, 8h. Les jardinières.